Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les œuvres d'art et les biens culturels firent l'objet de confiscations, d'appropriations arbitraires et de destructions dans des proportions encore inconnues en Europe. Même les saisies d'objets d'art opérées à grande échelle par Napoléon au profit des musées et des collections françaises ne peuvent être comparées aux confiscations par l'occupation nazie de centaines de milliers d'objets les plus divers, peintures, sculptures, tapis, bijoux, orfèvreries, livres, manuscrits, trésors des cultes ou instruments de musique. Ces mots du musicologue hollandais Willem de Vries figurent dans l'introduction de son livre « Commando musique, comment les nazis ont spolié l'Europe musicale ». Concernant l'histoire de la spoliation des œuvres d'art, l'attention a surtout été portée sur celle des peintures et des sculptures. L'histoire de la spoliation des instruments de musique, des bibliothèques musicales, des partitions manuscrites ou imprimées, des collections discographiques est beaucoup moins connue. Écrit il y a 25 ans et enfin disponible en français aux éditions Buchet-Chastel, Commandant musique s'est imposé comme un ouvrage de référence comblant alors un vide. C'est un travail d'autant plus passionnant qu'il repasse l'histoire de la spoliation des biens musicaux dans le contexte à la fois économique et idéologique d'une politique culturelle et musicale de l'Allemagne nazie précisément élaborée et mise en œuvre. Alors bonjour Laurence Lars. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes musicien, historien de la musique et c'est à vous que l'on doit la traduction du livre de Willem de Vries, dont vous avez écrit la postface, et puis vous avez aussi ajouté une bibliographie, puisque c'est un livre, comme je le rappelais là dans ma petite introduction, qui a maintenant 25 ans, et comme vous nous l'expliquerez sans doute, la recherche pionnière à son époque a avancé depuis, et vous avez augmenté d'un savoir plus récent dans la bibliographie qui figure à la fin de l'ouvrage. Peut-être on peut tout simplement commencer par dire qui est Willem de Vries. C'est un personnage qui m'a semblé assez, que je ne connaissais pas, hein, je n'avais pas lu ce livre dans sa version anglaise, dont l'introduction montre qu'il est un personnage vraiment intéressant, et on peut rappeler déjà donc qu'à l'origine de cette enquête, il y a une circonstance presque, on pourrait dire, hasardeuse, puisque c'est un musicologue, il fait une thèse sur Darius Milhaud et le jazz, il rencontre la veuve de Darius Milhaud, et cette veuve lui dit, lui apprend en vérité qu'une partie des biens de son mari sont toujours disparus au moment où il parle avec elle. Et c'est à partir de là qu'il engage quelque chose comme une recherche, mais qui est aussi une enquête en vérité.
Exactement. Il y a dans ce que vous venez de rappeler les conditions d'abord d'une proximité avec l'œuvre de Milhaud, et en particulier avec la personne de Madeleine Milhaud, que certains d'entre nous ont sinon approché, du moins connu dans les années 90 avant sa mort.
Quand vous dites d'entre nous, vous voulez dire musicien, oui. Historien de la musique, d'accord.
Voilà, qui était une femme très avenante, très agréable, et qui recevait volontiers chez elle les jeunes musiciens, et j'imagine tout à fait l'accueil favorable, même très favorable, qu'elle a dû accorder à quelqu'un comme Willem de Vries, qui venait dans un but de propagation de l'œuvre de son mari, et d'études, et aussi dans le but de placer probablement en premier lieu de circonscrire véritablement l'influence du jazz dans l'œuvre de Milhaud. Alors maintenant, c'est une chose naturelle que de parler de Milhaud et le jazz. On a tous dans notre mémoire auditive un certain nombre d'éléments. À l'époque, ça l'était un petit peu moins. Et le projet de thèse sur l'influence du jazz dans l'œuvre de Milhaud s'est mué au fur et à mesure de la réalisation par De Vries des manques tragiques les œuvres, dans le catalogue des œuvres de Darius Milhaud, en particulier de pièces et de biens qui ont été confisqués. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de trou mémoriel dans la vie de Darius Milhaud et de sa femme Madeleine.
Il faut le rappeler, hein, Darius Milhaud, musicien juif, habite à Paris, voilà. Part aux États-Unis.
Exactement, il émigre.
Il émigre.
Tout simplement, il laisse derrière lui, comme beaucoup d'autres Israélites de l'époque, tous ses biens. On sera peut-être amené à parler de Wanda Landowska, qui est un exemple aussi d'une appréhension extrême devant ce qui se profilait aux portes de Paris au mois de mai et juin 1940. Wanda Landowska a pris la fuite très rapidement vers le sud de la France, puis dans l'automne 40-41 vers les États-Unis, laissant derrière elle la totalité d'une collection inestimable, notamment pour ce qui est des instruments historiques. C'est un petit peu le cas de Darius Milhaud, mais dans une moindre proportion, quand même une sorte de confiance dans l'avenir. Wanda Nowdowska n'a rien mis à l'abri. Elle est vraiment partie en laissant la clé de sa maison à sa femme de ménage et à Denise Restoux, son assistante. Millot, lui, avait pris la précaution de mettre à l'abri, notamment chez son frère dans le midi, un certain nombre de biens, parce qu'il avait peut-être... une moindre confiance dans l'avenir que Wanda Nowdowska. En tout cas, toujours est-il que ce que Willem De Vries a initié de par son contact avec Madeleine Millot, eh bien c'est devenu un livre d'histoire et il s'est élargi sur la spoliation appliquée aux biens musicaux dans les trois principaux pays d'Europe occidentale que sont la France, la Belgique et les Pays-Bas.
On est d'accord pour dire que c'est pas sa vocation première de faire une histoire comme celle qu'il a faite dans ce livre-là.
Non,
c'est,
absolument pas.
C'est ça. C'est ça qui est.
C'est un musicologue qui signe finalement un livre d'histoire
et qui fait référence. Donc on l'a déjà noté. Politique de la spoliation. On reviendra sur ce qui donne son titre au livre, Commando Music, qui traduit le terme Sonderstab Music. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en amont de ce moment où est constitué un commandant musique au sein de la politique nazie. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans les premiers chapitres du livre, long chapitre, c'est ce qu'il appelle la politique musicale de l'Allemagne, en général on pourrait dire, puisqu'il commence dès 1928, ensuite la politique musicale de l'Allemagne nazie, le programme, disons, idéologique et esthétique qui entraîne un certain nombre de décisions politiques, avant que soit mis en place la politique de spoliation. Et les deux, une grande partie du livre s'attarde sur cette question du rapport, on pourrait dire, politique et esthétique à la musique par les nazis.
Oui, idéologique aussi. Alors effectivement, on peut noter à travers ce livre et à travers d'autres sources également, véritablement, non pas un point de bascule, mais une mutation progressive de la politique musicale de l'Allemagne dans son versant idéologique. Il est évident qu'à partir de 1933, les choses se précisent et s'accélèrent. À telle enseigne qu'un certain nombre de voyages d'études préparatoires sont engagés par des sommités de la musicologie allemande, au nombre desquels Herbert Gehrig, dont on sera peut-être amené à parler, et qui deviendra le grand patron du Sonderstab Musik. Herbert Gehrig et quelques autres grandes figures de la musicologie allemande qui avaient toute pignon sur rue et qui pour la plupart étaient déjà très connus dans toute l'Europe et très respectés en tant que tels, ont entrepris des voyages d'études dans les différents pays d'Europe, car il est apparu très rapidement comme nécessaire au titre, je dirais, des premières mesures musicales proprement nazies, de mettre la main sur les biens musicaux d'origine allemande. On sait par exemple qu'il y a depuis le 19e siècle, dans un tas de grands musées et même de grands conservatoires européens et d'institutions musicales, des quantités importantes, par exemple, de manuscrits musicaux des plus grands compositeurs, que ce soit Mozart, Beethoven, Haydn, etc. Dès le début des années 30, et en particulier à partir de 1933, il s'est agi, à titre préparatoire tout au moins, de se préparer à les récupérer. C'est-à-dire qu'il a fallu tout d'abord aller les repérer. Des gens comme Gehrig et ses sbires et un certain nombre d'autres figures savaient exactement, ou tout au moins avaient une idée assez précise de l'endroit où se trouvaient les pièces sur lesquelles ils entendaient remettre à la main, et ils sont allés tout simplement les repérer.
Gehrig en personne,
voilà. Sont allés compulser les fichiers. Gehrig, lui, a fait plusieurs voyages d'études à Varsovie et à Cracovie en 1936.
J'allais vous demander la date. C'est si tôt que ça, d'accord.
C'est si tôt que ça, oui. Et alors, je ne connais pas les dates précises, mais ça commence à la fin. Ça commence dans la deuxième moitié des années 30. Et il est allé faire des repérages, et il est allé compulser les fichiers. Puisque c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, il a fait sa liste de cours, si vous voulez. Voilà. Et d'autres sont venus le faire à Paris, à la bibliothèque de l'Opéra, à la bibliothèque du Conservatoire, à la Bibliothèque nationale. Tout ça a été préparé pour le jour J.
Alors il y a l'idée qu'il faut récupérer ce qui leur semble être des biens musicaux qui doivent être détenus par l'Allemagne, mais il y a aussi l'idée qu'il faut purifier la musique allemande, par ailleurs, des influences étrangères, de rendre véritablement allemande la musique. Là, il faut qu'on parle, par exemple, de la question de la figure d'un Mendelssohn dans cette histoire-là et d'un processus qui va aboutir à un livre en 1940 qui est le Dictionnaire des Juifs dans la musique.
Voilà. Alors, avant d'en venir au lexicon, au dictionnaire, effectivement, il s'agit d'une politique à deux versants. Il s'agit d'abord, comme on vient de le dire, de récupérer ce qu'on estime indispensable et revenant de droit au Reich, à l'Allemagne, et d'autre part, de purger la musique européenne, en tout cas celle des pays occupés, de toute influence dégénérée, entartete, ou nocive, pour toute autre raison. Une grande partie de la musique de divertissement est passée sous les fourches caudines de la politique musicale nazie et a dû rendre des comptes. Les deux versants, c'est d'une part la récupération et d'autre part l'évacuation.
Là, le spectre qui hante idéologiquement ce moment-là, c'est Wagner, pour vous ? Vous diriez ça ?
Wagner et d'autres qui
Wagner
ont...
Wagner qui est l'auteur d'histoire de la musicologie, où la question des juifs dans la musique était déjà présente, c'est pour ça que je nomme là.
Wagner est effectivement une figure incontournable parce qu'il a, je dirais qu'il a non seulement verbalisé mais mis en forme son rejet de l'influence qu'exerçaient les juifs dans la musique, et ça fait de lui une sorte de porte-drapeau, bien évidemment, encore que son rôle a été exagéré. Mais il y a d'autres figures qui n'ont pas demandé à l'être. Hein. Je pense à Bruckner, qui a été ignominieusement récupéré par les nazis, alors que Bruckner était, de tous les grands compositeurs allemands, peut-être celui qui était le plus épidermiquement allergique à toute idée d'autoritarisme et de coercition. Il y a, vous le disiez également, la figure de Mendelssohn, qui a été non seulement évacué de toutes les programmations musicales, mais qui n'a pas vu puisqu'il était mort déjà depuis bien longtemps, mais dont un certain nombre d'œuvres ont été non seulement interdites, mais expurgées au cas où. On a même, vous le savez, demandé à des compositeurs, on a ouvert un concours pour recomposer la musique du Songe d'une nuit d'été d'après Shakespeare. Voilà. Et des compositeurs allemands, et non des moindres, ne se sont pas fait prier longtemps pour répondre favorablement au concours.
Et puis concernant Mendelssohn, c'est compliqué parce qu'il faut réécrire l'histoire de la musique allemande du 19e siècle où il y a une place centrale dans les discussions qu'il pouvait avoir avec ses contemporains.
On connaît sa
proximité avec Schumann notamment.
Et donc, il en est beaucoup question dans ce livre.
Voilà, il s'agit de réécrire quasiment la correspondance de Schumann et Mendelssohn.
Ce que certaines personnes, dont Wolfgang Böttcher, ne s'est pas privé de faire. Si vous voulez, la figure de Mendelssohn est d'autant plus révélatrice qu'elle agit par rapport au nazisme, dans un domaine d'influence qui a trait à sa personnalité. Mendelssohn était un enfant surdoué, au moins au même titre que l'avait été Mozart. C'était une personnalité brillantissime, qui avait pratiquement trop de talent. C'est parfois l'impression qu'on a en entendant certaines de ses œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il a cédé à la facilité, mais c'était trop merveilleux, Mendelssohn.
Je rappelle qu'il est le petit-fils de Moïse Mendelssohn.
Voilà.
Le père de Mendelssohn disait « Je suis le fils de mon père et le père de mon fils ».
Voilà. 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 Vous faites bien de rappeler cette espèce de saga familiale qui me fait penser depuis un certain temps, pour des raisons un petit peu différentes, à celle qu'a pu être l'aventure de la famille Mann au XXe siècle. Ce sont deux familles qui, chacune dans leur siècle, pour des raisons tout à fait différentes, une famille juive dans un cas et non-juive dans l'autre, ont exercé vraiment un empire considérable sur les idées et sur la propagation de l'esprit germanique et de l'esprit allemand, au meilleur sens du terme, sur les 19e et les 20e siècles. Donc effectivement, ne pas pouvoir, pour les nazis, récupérer la figure de Mendelssohn parce qu'il était juif, c'était vraiment quelque chose d'inacceptable. Il fallait donc absolument le salir au maximum et essayer de diminuer son poids réel, en dehors même du simple fait qu'il émanait d'une famille juive.
On va parler très vite là du commandant musique, mais je voudrais, avant que vous nous disiez quelque chose du lexicon, ce dictionnaire des juifs dans la musique, écrit en 1940, enfin coécrit notamment par celui qui va être à la tête du commando musique, qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire ?
C'est tout simplement...
William de Gris y consacre un chapitre.
Voilà, c'est tout simplement un index alphabétique des personnalités juives du monde musical, non seulement allemand mais européen, en 1940. Et il s'agit tout simplement de l'imposer comme vademecum et comme manuel de référence, non seulement dans le Reich, mais également dans les pays occupés, pour savoir qui a droit de citer et qui n'a pas droit de citer sur les ondes radiophoniques, dans l'édition phonographique, dans la politique de concert, dans la politique d'édition musicale, pour l'impression des partitions. Tous les aspects qui relèvent de la politique musicale étaient supposés prendre leurs instructions d'une certaine manière sur la, dans le lexicon der Juden der Musik qui faisait autorité. Telle personne n'y figurait pas, on pouvait y avoir, on pouvait faire appel à elle. Toute personne qui y figurait était évidemment persona non grata.
Alors, le Sonderstab Music, le commando Music, quand est-il créé? À quel moment précisément? Quel est d'abord son objectif? Comment il procède? Est-ce que vous pouvez nous faire vraiment le portrait de cette institution qui donne son titre au livre de Willem de Vries?
Alors, on peut peut-être, dans ce but, rappeler un petit peu les grands traits de son antériorité. Le premier organisme d'importance qui est créé dès le début de l'occupation des trois pays occidentaux, c'est-à-dire à l'été 1940, et pour être précis, on est à la mi-juillet 1940, c'est ce qu'on a appelé l'ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, c'est-à-dire le service spécial du gouverneur du Reich, Rosenberg. Alfred Rosenberg était, au même titre, j'allais dire au même titre que Goebbels, mais encore plus, je pense, le principal idéologue du régime. Il a bénéficié, même s'il est, il n'est pas un compagnon d'armes d'Hitler au même titre que Goebbels, il a bénéficié à ses yeux, aux yeux du Führer, d'un régime exceptionnel véritablement, puisqu'il était le seul à porter le titre de Reichsleiter.
Ce titre est,
voilà. Ce qui faisait de lui, de facto, le numéro 2 du régime. Voilà. Et il a obtenu des fonds, des moyens matériels considérables pour mettre en place cette ERR qui portait son nom par-dessus le marché dès l'été 1940. ERR dont le siège, qui avait une antenne importante à Paris, qui se trouvait à l'hôtel Commodore, en plein centre de Paris.
On avait fait une émission sur l'exposition du marché de l'art à Paris, voilà. Il y a quelques mois, et on en avait déjà parlé.
Effectivement, l'ERR avait, si je puis dire, juridiction sur l'appropriation et la spoliation de tous les biens culturels, qu'ils soient musicaux ou picturaux, que ce soit la statuaire, qu'il s'agisse de la politique cinématographique, enfin tout ce qui était confiscable passait par les fourches caudines de l'ERR. Et puis, au sein de cette ERR, sont nées deux autres entités. Tout d'abord, ce qu'on a appelé la Hauptstelle Musik, qui a été créée dès 1935, en fait, qui est antérieure à l'ERR, mais qui a été rattachée à partir de 1940, cette Hauptstelle Musik, qu'on pourrait traduire sous le vocable de bureau principal de la musique, a mis en œuvre les premiers aspects de la politique musicale, et c'est sous son égide en particulier que des grandes figures de la musicologie ont fait les voyages d'études dont on parlait à l'instant. Et puis, à partir de 1940, donc création de l'ERR, changement de braquet un petit peu, une fois que la Belgique, la France et les Pays-Bas sont occupés, changement de braquet dans la politique de spoliation, qui est d'ailleurs surveillée de très près, non seulement par Rosenberg lui-même, mais par le Führer, par Hitler lui-même, mais également par deux personnes qui vont être intéressées et qui se sont intéressées de très près à tout ça à titre personnel, et qui étaient Goebbels, d'une part, et puis il y a également eu le ministre des Affaires étrangères Ribbentrop, et puis il y avait évidemment Göring, tous trois.
Göring qui s'est fait sa collection.
Voilà,
en France,
exactement. Hein. Ribbentrop aussi a essayé de le faire. Bon, on parlera peut-être de la mise en concurrence presque spontanée entre elles des entités administratives allemandes, parce que ce qui ressort de tout ça également, et ce qui ressort magistralement de cet ouvrage, c'est l'efficacité administrative toute germanique des différentes entités qui ont été mises en place. Et je termine de répondre à votre question à propos du changement de braquet de 1940 pour vous dire que la Hauptstelle Musik de 1935 se fond avec ce qui a été appelé à partir de 1940 Amtmusik, c'est-à-dire l'office de la musique, dont les prérogatives étaient encore plus importantes. Et c'est sous l'égide de cette Amtmusik qu'a été mis en place le Sonderstab Musik, qui était là, pour le coup, véritablement le commando d'action pour les confiscations. C'est-à-dire que c'était le Sonderstab Musik qui avait juridiction sur les forces armées et les petits commandos qui servaient tout simplement à débarquer dans les appartements.
Alors, j'allais vous poser la question. Comment il procède concrètement, ce commando Musik, et qu'est-ce que deviennent les biens confisqués?
Eh bien, comme je vous le disais, le Sonderstab Musik a pour mission, tout en référant aux administrations dont on vient de parler, de mettre en place les missions de confiscation, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à des soldats qui, dans un premier temps, seront détachés de la Wehrmacht, et dans un deuxième temps, il y aura des commandos qui seront inféodé directement aux Unterstabmusik. Et j'ouvre à cet égard une parenthèse importante pour dire qu'à partir de, je crois que c'est à partir de 1941, il y aura pour le RR et toutes ses administrations dépendantes un uniforme particulier, ainsi qu'une hiérarchie paramilitaire particulière qui sera calquée avec quelques différences sur celle de la Wehrmacht. Ainsi, dans la même époque, c'est-à-dire de mémoire fin 40, début 41, ainsi qu'une autorisation pour les organes opérationnels du Sonderstab de suivre la Wehrmacht dans ses opérations de conquête pour mettre directement la main derrière elle sur les biens intéressants. Un petit peu, ou à l'inverse, de ce que feront les Monuments Men derrière l'armée américaine à partir de la fin 1944.
Mais alors, il faut dire que là, il ne s'agit pas d'aller seulement chez Darius Milhaud ou Anda Landowska récupérer les clavecins de l'une la bibliothèque de l'autre. On va dans n'importe quelle maison juive où il y a un piano, il y a des milliers de pianos à queue, des pianos droits, mais aussi des pianos d'études, et pas que des pianos, des violoncelles, des violons, des clarinettes, voilà. C'est des centaines d'orchestres qui peuvent être recomposés à partir de ce qui a été spionné. Et dans toutes les familles, on pourrait dire, dans toutes les familles juives,
s'il n'y a pas de piano, il y a au moins un violon, s'il n'y a pas de violon, il y a une vieille clarinette quelque part dans un placard.
Tout
est bon à prendre. À partir du moment où les organisations dont on vient de parler se trouvent à la tête d'un parc, on peut appeler ça un parc instrumental important, il s'agit de procéder à plusieurs choses. Tout d'abord, il faut les mettre à l'abri. Le Sonderstabmusik et l'Amtmusik ont juridiction dès 1940, sous le contrôle de Hitler qui délivre un certain nombre de Führerbefehle, c'est-à-dire des ordres signés de sa main, pour que des convois prioritaires, c'est-à-dire des trains au départ de la gare de l'Est, pour ce qui est de Paris, soient chargés jusqu'à la gueule d'instruments de musique et foncent vers l'Allemagne pour une mise à l'abri. Alors, à partir du moment où tout ce matériel arrivait à Berlin, où se trouvait une des antennes principales de l'ERR, il s'agissait de procéder à un tri. Il y avait grosso modo quatre catégories d'instruments. Tout d'abord, la crème de la crème. Les instruments historiques les plus précieux étaient mis de côté et protégés dans les meilleures conditions possibles pour être dirigés vers la bibliothèque et les fonds de ce projet pharaonique qui devait s'appeler la Hochschule, c'est-à-dire le grand lycée, la grande école, qui devait supposément ouvrir ses portes après la fin de la guerre et qui ne les a jamais ouvertes, puisque ce projet de grande école qui devait se situer entre Leipzig et le lac de Chiemsee a fait l'objet d'un concours architectural. On sait à quoi ça devait ressembler, c'était une chose absolument colossale, dont la section de musique devait être alimentée par le produit des confiscations. Donc ça, c'était la destination des plus beaux instruments, quels qu'ils fussent et quelle que soit leur origine. C'était principalement une origine très, très, très spéciale, bien évidemment. Les instruments qui appartiendraient, à la classe légèrement inférieure, pouvaient être, sur demande, mis à disposition des dignitaires du régime. Ce que ça pouvait intéresser. La catégorie suivante était mise à disposition des écoles de musique qui pouvaient en avoir besoin. Et il y avait une quatrième catégorie où se trouvaient des instruments réparables, mais en mauvais état, qui, tout simplement, étaient mis à disposition des familles allemandes qui avaient été bombardées par les Alliés dans de grandes villes comme l'ont été Leipzig et plus tard Dresde et qui avaient perdu leurs instruments de musique, tout simplement.
Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans, évidemment, tous les détails, toutes les histoires que raconte ce livre foisonnant. Il rend compte d'une chose au moment où il l'écrit, au début des années 90, puisque c'est un livre dont la première version sort en 95, que quand lui travaille, tout est dispersé à des endroits les plus épars dans toute l'Europe, jusqu'en Russie, ils trouvent des choses en Russie, et qu'il y a une espèce de dispersion donc généralisée, des choses perdues, c'est très compliqué. Et effectivement, je voudrais, juste avant, malheureusement, qu'on se quitte, qu'on évoque la question, évidemment, des restitutions, parce qu'on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué et difficile de rendre efficace une politique de restitution concernant les biens musicaux que concernant évidemment les chefs-d'œuvre de la peinture, la sculpture, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? On peut d'ailleurs citer le fait que je pense que vous avez aussi travaillé donc pour ce livre, vous évoquez l'association Musique et Spoliation de Pascal Bernheim. Donc, c'est un chantier aussi que la question est une actualité, la question de ces restitutions. Je suis désolé de vous demander de répondre malheureusement en quelques secondes presque.
Je comprends parfaitement. Cette association fait un travail extraordinaire et elle s'est avérée indispensable tout simplement parce que les instruments de musique n'ont pas la visibilité aux yeux du grand public que peuvent avoir des grandes toiles de maître et des grandes œuvres de l'art sculptural tout simplement. Et on sait, nous savons tous, les musiciens, que la musique a besoin de temps matériel pour naître, pour se matérialiser, alors que les œuvres qui ressortissent aux Beaux-Arts sont bien plus spectaculaires dans leur façon de se manifester. Alors, vous parliez dispersion, oui, dispersion, mais organisation à l'allemande. Les archives allemandes ont été parfaitement gérées à partir de la fin de la guerre. Le problème n'a pas été leur accessibilité, le problème a été l'acceptation par les nouvelles générations des méfaits des personnes dont on a parlé, comme Herbert Guérick ou Wolfgang Bötticher, par exemple. Le seul problème que la dispersion a véritablement posé, c'est les biens sur lesquels les Russes avaient mis la main au moment de leur arrivée par l'Est, et qu'ils ont ramené chez eux. Bon. Et là, il y a toujours aujourd'hui un flou considérable dont on ne sait pas quand il sera dissipé.
Bon, alors malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là. Je veux juste dire une seconde à propos de Wolfgang Bötticher, parce que ça me tient à cœur de le dire aux auditeurs, que ce monsieur est resté en place dans les universités allemandes jusque dans les années 2000, et que Willem de Vries, dans son introduction, raconte qu'il a eu beaucoup de mal à lancer son enquête et ce travail de recherche, précisément compte tenu de la place qu'avait Wolfgang Bötticher dans le monde musicologique européen à ce moment-là. Donc c'est une histoire qui est encore chaude, on pourrait dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Laurence Lars. Je rappelle que vous êtes donc historien de la musique, musicien, que vous avez traduit ce livre de Willem de Vries, Comment les nazis ont spolié l'Europe musicale. On a parlé de quelques chapitres de ce grand livre. C'est paru chez Buchet-Chastel avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.